Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Il est probable, même si vous n'aimez pas forcément ce genre de cinéma, que vous avez tous vu un ou plusieurs westerns. Ce genre typiquement américain que les Italiens ont converti à leur sauce avec Sergio Leone. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un western dont vous ignorez peut-être l'existence. Un western de chambre écrit par René de Obaldia. Alors, René de Obaldia, qui est-ce ? Il va bientôt fêter ses 99 ans. Il y a quelques semaines, il était à Chartres, à la librairie Les Sperluettes, pour présenter son dernier ouvrage. Et c'est incroyable la façon dont il a conserver sa jeunesse, son enthousiasme, son humour et son esprit à toute épreuve. Alors, signalons également que René de Obaldia est le doyen de l'Académie française depuis 2012. Et Obaldia est surtout connu pour ses pièces de théâtre. Il a décrété un jour que l'absurde est plus sérieux que la raison. A-t-il raison ? Je vous laisse le soin d'en juger, mais en s'en tenant à ce principe, il a quand même écrit quelques pièces, notamment « Génousie » en 1960, qui a été créée dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault avec Gérard Philippe. Il a écrit en 1961 des impromptus à loisir, dont notamment « Édouard et Agrippine, le défunt ». En 1963, il a écrit « Le satyre de la Villette » qui a fait un scandale épouvantable au moment de sa sortie et qui, peu après, a remporté un succès non moins considérable. Et nous en arrivons à ce western de chambre écrit en 1966. Le titre « Du vent dans les branches de sassafras ». Alors, reste à savoir peut-être ce qu'est un sassafras. Alors, je vous donne la définition telle qu'elle a été donnée par René de Obaldia, telle qu'elle a été transmise par René de Obaldia. C'est un Lauracé au Canada et aux États-Unis, caractérisé par des fleurs mâles ayant 9 étamines fertiles. On a utilisé le bois qui est léger et d'un beau jaune en ébénisterie pour la construction de bateaux légers, de barrières, de traverses. Son essence est employée en parfumerie. Le sassafras également entre dans les bois sudorifiques. On en fait aussi un sirop par infusion. Alors maintenant, revenons à notre pièce. Elle a été créée. Peut-être est-ce une des raisons d'ailleurs de son succès. Elle a été créée par Michel Simon, un monstre sacré du théâtre et du cinéma. À ses côtés, il y avait François Seignier, sociétaire de la Comédie française, fille de Louis Seignier, lui-même sociétaire de la Comédie française. En clair, une distribution de rêves. Alors, quelle est l'histoire ? Plutôt, quel est le point de départ de l'histoire aux multiples rebondissements de ce western de chambre ? L'action se passe dans le Kentucky, au début du XIXe siècle. Et voici les toutes premières répliques. Il s'agit de la prière avant le repas. Et c'est John Emery Rockefeller, Rockefeller bien sûr le nom n'est pas mis par hasard, qui était joué par Michel Simon. Voici la prière avant le repas. J'ai toujours secouru la veuve et l'orphelin, j'ai toujours rudement travaillé de mes 10 doigts. On ne peut pas m'accuser d'être manchot. J'ai repoussé bien des assauts, succombé à bien des tentations, j'ai blanchi à la sueur de mon front et bouffé pas mal d'Indiens, vu que ce sont des païens. Pamela, c'est sa fille, n'étale pas toujours tes seins sur la table quand je fais la prière. Pamela, personne t'empêche de regarder ailleurs. Ma maison est toujours ouverte quand elle n'est pas fermée. À preuve, notre ami le toubib, William. Puisque j'ai vécu jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, et les autres avec. Alors, Seigneur, jette un œil miséricordieux sur nos humbles personnes, donne-nous ta bénédiction, fais-nous plumer nos ennemis et triompher de nos amis, protège le bétail, les faibles esprits et envoie aussi un peu de pluie. Si t'agis comme ça, recta, moi, John Emery Rockefeller, colon dans le Kentucky, je ne penserai pas trop de mal de toi. Voilà. Amen. Et tous, amen. Et le repas commence donc normalement jusqu'à ce que on découvre qu'autour de la maison, il commence à y avoir de l'agitation. Alors, la famille est quand même un peu bizarre, la famille Rockefeller, puisque la mère, jouée par François Seignet, comme je le disais tout à l'heure, interroge les boules de cristal, ce qui lui permettra d'anticiper sur les événements par la suite. Voici la première intervention de la mère autour de la boule de cristal. Et à ce moment-là, sa fille, avant qu'elle ait ouvert la bouche, pique ce qu'on pourrait appeler une crise de nerfs. Eh bien moi, voulez-vous que je vous dise, vous n'êtes qu'une bande de demeurés, abrutis par des préjugés stupides. Vous allez contre l'évolution de l'espèce, l'émancipation de la femme, le droit à disposer de soi-même, la résurrection des corps. Vous voulez toujours qu'on profite de la vie une fois qu'elle est passée. Caroline, la mère, ma Pamela, tu vas trop loin, je te prie de te taire. De quel droit je me tairai? J'ai ma jeunesse pour moi et un jour, la jeunesse vous enterrera tous, elle envahira le monde. Et vous aurez honte de n'avoir jamais connu la vôtre, d'avoir toujours vécu en vous, économisant comme de vieux bouts de chandelle. Dans 100 ans, on rigolera de vous. Peut-être même avant, moi, je suis né trop tôt. Je sens bien que je suis né trop tôt. Mes idées, elles galopent, elles sont en avant sur mon temps. Je serai seulement comprise après ma mort. C'est affreux et elle s'effondre en larmes. Je vous propose une première pause.
Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement, et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien, tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien,
ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine,
ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma.
Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame, « Mais vous m'attrapez les seins !» Je lui ai répondu, « Madame, il n'y a pas de quoi faire ce potin. »
Ça
vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le doigt pour Pontalma.
On a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le soir au fond d'Alma.
Chez une vieille douairière de 60 ans bien sonnée, des bandits masqués entrèrent et voulurent la violenter. Le mari criait arrière, je préfère que l'on me tue. Mais brusquement la douairière lui dit à quoi ça mal tue.
Mais voyons Gaston.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine.
Oh, mais...
Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au bout de l'alma.
Allons, allons, ma fille. Oh, c'est à moi, vraiment. Comme on parlait de...
Alors, nous rejoignons les Rockefeller autour de la table. Et alors, après cette intervention de la fille, voici la première entrée en transe, si j'ose dire, de la mère Caroline. Elle est devant sa boule de cristal. La forêt. Je vois la forêt. Des arbres. Plus des arbres, plus encore des arbres, une foule d'arbres, des quantités d'arbres. Si, c'est la forêt. Chut ! Des pins, des hêtres, des érables, des sassafras, un castor, deux castors, trois castors. Ah ! Un homme qui tombe d'une branche. Il est rouge. Tout rouge avec des yeux verts, un bec d'aigle, il porte un diadème de plumes sur le chef. Œil de lynx, oui, œil de lynx. Il avance sans bruit d'un pas, élastique, élastique, il ricane entre ses dents toutes jaunes de jujute, jujute. Il profère des injures secrètes, secrètes, il passe sa langue sur ses lèvres fardées, fardées, il porte en jouant une grosse amulette. Et il pousse un cri. Un cri muet, un ultrason. Des centaines d'autres hommes surgissent de la forêt, silencieusement, en tenant leurs chevaux par la bride, armés de tomahawks, de flèches empoisonnées, trempées dans de l'acide prussique, des rouges partout, des rouges et aussi des blancs, 608 rouges et 4 blancs. D'autres. Encore d'autres, tout peinturlurés, les dents aiguisées, aiguisées, qui descendent de la rivière avec des canots et en pose zébu. C'est-il des Mohicans, des Apaches? Des Hurons. Des flopés de Hurons. Takakakiki, takakakiki. Tikipout, tikipout, oh là là, tikikikipout. C'est du Huron, je reconnais, elle parle Huron. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas, je connais pas le Huron. Alors, Caroline, brusquement, est interrompue parce que son mari veut lui demander des précisions, mais quand on arrête ses transes, elle se rappelle plus ce qu'elle a dit. Elle finit par se remettre devant son globe, sa boule de cristal. Ah, un Indien, tout seul. Couvert de plumes sur un cheval au galop, au triple galop, il fonce vers notre maison. Évoé, évoé, la terre résonne sous les sabots puissants du fourreau quadrupède. Sa crinière flotte comme un drapeau. Le plumitif irrite le flanc de sa monture, et plus vite, il va encore plus vite, ses yeux flamboient. Son haleine brûle, tel un éclair, il file, il balaye l'espace, et hop, une haie, et hop, un enclos. Il bouscule la cascade, il vole, il... Et à ce moment-là, entre dans la pièce œil de perdrix. Alors, dans la pièce, il y a deux Indiens qui apparaissent. Œil de perdrix et œil de lynx. Œil de perdrix, c'est le gentil. En clair, c'est celui qui s'est rangé du côté des blancs. Œil de lynx, C'est le vilain Huron qui veut tuer tous les Blancs. Et c'est joué par le même personnage, par le même acteur, pardon. C'est bien connu. Tous les Indiens se ressemblent. Les gentils, les méchants. Alors, évidemment, les personnages de la pièce ont un peu du mal à s'y retrouver. Et puis voilà que brusquement entre dans la pièce un personnage qui va jouer un rôle considérable. Ce personnage, c'est Myriam. D'après la distribution, Myriam, c'est la putain au grand cœur. Elle était dans une maison de passe et on l'appelait Petite Coussure. Et là, elle arrive échevelée et elle raconte le massacre qui vient d'avoir lieu. Et alors là, c'est un passage absolument extraordinaire où en purs alexandrins, René de Obaldia s'en donne à cœur joie, pastissant au passage Racine, Molière et quelques autres classiques. Ô terreur inconnue, ô remuantes Alpes, horloge dans la nuit, dans le tic-tac vous scalpe. Un calme délirant et qui tombait des cieux et voulait me faire croire à l'avance des dieux. Le sommeil, beau navire, avait hissé ses voiles. J'entendais respirer les tremblantes étoiles. Cependant, tout en moi refusait de dormir. Saisi par l'effroi plus que par le plaisir, l'homme qui m'honorait est reposé sur ma couche, promise à l'abandon et le poing dans la bouche. Que j'en ai vu déjà, mâles prompts et défaits s'abîmer follement dans les douceurs de lait. Le plus rude marchant sur le sein d'une femme redevient enfant en quête de son âme. Ne pouvant fermer l'œil, j'ouvris grand mon esprit, tentant d'analyser l'angoisse qui me prit. Mais en vain, le ciel pur permis par la fenêtre incitait à la paix de l'être et du non-être. Oh, nature trompeuse! Oh, le cruel répit dans la blanche clarté, le noir Mississippi! Voilà que tel un chant, tel un écho funèbre, j'entends autour de moi remuer les ténèbres. Ce ne sont que soupirs, plaintes, gémissements qu'on ne saurait confondre avec ceux des amants. Je me dresse à demi morte et moite. Mon corps n'est plus le corps qu'un vain peuple, convoite une clameur intense ainsi qu'un ouragan, retentit tout d'un coup et me glace le sang. L'instinct le plus puissant a raison de mon trouble. D'un bond, je suis en bas et dans un état double. Je rampe sous le lit, me cachant bel et bien. Déjà, la porte s'ouvre et le pauvre chrétien voit surgir devant lui comme anges et caciques avec des oiseaux peints sur cage thoracique. C'en est fait, il n'est plus, ou plutôt, il est deux. Son chef, d'un coup tranché, tombe en sonnant le creux. Et comble de l'horreur, cette boule vivante roule vers moi, son fantôme d'amante. Sous le lit ténébreux, je dois, avec mes mains repousser ce regard qui n'a plus rien d'humain. Les rouges satisfaits dans un fracas de plumes courent en d'autres lieux installer leurs coutumes. La ville tout entière est comme un lit fumant où le viol et le sang narguent le firmament, et voici que la nuit... Ô monstre polygame, délire de son sein un océan de flammes. Pancho, Pancho City, gigantesque brasier, quel crime as-tu commis à ce point expié? À l'atroce lueur qui me fait son aumône, je me vais et m'enfuis, pareil à l'Amazone au sein nu, les cheveux dénoués, sans frein, tableau que tout artiste a rêvé d'avoir peint. Dehors, un vent de feu me lèche le visage, il me saute à la gorge une odeur de carnage. Les barbares, précis, fondant comme l'éclair, n'ont laissé derrière eux qu'un atroce désert. Cadavres mutilés et surpris, pêle-mêle, enfants violacés encore à la mamelle, innocents et pécheurs poussant un dernier couac, leurs visages fendus à coups de tomahawk. J'avance, telle une ombre malfamée, sur laquelle s'abat des poutres enflammées. Je bondis, je halète, il me semble parfois que des lambeaux de chair courent derrière moi. Il n'est point de chariot ni même de calèche qui ne soit renversé, criblé de mille flèches. Au détour d'une rue, un cheval aveuglant me contemple et ricane et s'effondre en hurlant. Une main dans les airs avec ses doigts qui sifflent vole vers une étoile et lui donne une gifle. Plus loin, c'est tout à coup une meute de rats qui, de leurs yeux pointus, détaillent les appâts. Je sens celle, je vais, je hurle, je défaille, je tombe à genoux sur de chaudes entrailles. Dans ma tête fêlée, une cloche de feu sonne l'enterrement des hommes et des dieux. Pourtant, je me relève. Fin du récit.
Allô?
Allô, allô, James. Quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Et la péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Lucas.
Pendant ce temps, dans la maison, après le récit de Myriam, de la putain au grand cœur, on se rend compte que les choses autour de la maison ne vont pas si bien que ça. Et la pauvre Myriam reçoit une flèche au point qu'on la croit morte, enfin mourante, et alors, pour la consoler avant qu'elle meure, on la marie avec le docteur Butler. Et John Emery Rockefeller, le patriarche, conclut ce mariage en disant: « Seigneur, de même que tu viens de bénir cette union précipitée, je te demande de bénir l'âme de ta servante, madame William Butler, qu'elle vient de tendre entre tes mains et de consoler le veuf. Si qu'elle a beaucoup péché, ça te force à beaucoup lui pardonner. Il contient ses larmes, Seigneur. Tu peux pas faire autrement que de la prendre tout de suite avec toi, à ta droite, où je m'appelle pas John Emery Rockefeller. Amen. » En fait, on va se rendre compte que Myriam, la putain au grand cœur, a reçu une flèche non pas enfin, empoisonnée, mais enduite d'un produit soporifique. Alors, le nom de ce produit, je vous le signale à toutes fins utiles, c'est le Stalinon. Je ne sais pas si vous le trouverez en pharmacie, vous pouvez toujours demander, vous ne risquez rien. Et Myriam, eh bien, elle va en quelque sorte ressusciter. Et puis, arrive un beau chevalier, mélange de John Wayne, de Gary Cooper, qui va évidemment conquérir le cœur de la fille de la maison, qui va tomber amoureux, frappadingue, de la fille de la maison en question. Elle-même va s'élancer dans ses bras, et Carlos va partir à son tour chercher du secours. Le problème, c'est que le colonel Wallace, dont on sait que les troupes sont en marche, une troupe d'Écossais en kilt, est retardée parce qu'il est en train de prendre le thé. Il faut donc qu'il termine sa consommation quotidienne de thé avant d'arriver. Pendant ce temps, eh bien, pour les Rockefeller, la situation n'est guère enviable. En effet, le méchant indien, Œil de Lynx, rentre dans la maison. On le prend d'abord pour Œil de Perdrix, le gentil indien. Et puis on se rend compte que c'est le méchant indien. Et il va attacher, ficeler sur des chaises tous les habitants de la maison. Et il va proposer un marché au maître de maison. Il les détachera si le maître de maison accepte de lui donner sa fille comme secours. Alors, voici un peu le langage de Œil de Lynx. Je ne suis incapable de vous le traduire mot à mot, mais Konak, Akakai, Protopolt, moi, pas enfant de cœur, moi, Pamela, tu n'obtiendras rien que par la force, enfant de chacal. Kakato, Okato, Dakota, Kakato, tous, supplice 410. Et toi, vieux bouc, toi, 410 bis. Œil de Lynx, capitule, t'as pas qu'est culte? T'as pas piculte? T'as pas piculte? Je vous laisse le soin de découvrir comment tout cela va se dénouer, mais comme dans tout western qui se respecte, le dénouement sera heureux avec un double mariage, triple mariage même, et je vous remercie de m'avoir écouté.